Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle magnifique façon de débuter la semaine hier avec un sujet de philo. Peut-on croire au destin ? Autrement dit, notre existence est-elle écrite d'avance ? Ou avons-nous le pouvoir de tracer notre chemin pavé après pavé, choix après choix ? Sartre disait que s'en remettre uniquement au destin est une façon de maquiller notre lâcheté. Je vous laisse méditer et découvrir cette émission passionnante en podcast sur l'application RTL. Et de pouvoir, tiens, justement, il en est question aujourd'hui. Connaissez-vous la définition de l'ultra-crépidarianisme, ce terme un peu barbare et imprononçable, pardon d'avance si je l'écorche pendant cette heure, désigne un comportement de plus en plus répandu et notamment sur les réseaux sociaux, celui de donner son avis avec une assurance certaine sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas de compétences ou de connaissances avérées. Un exemple au hasard. Juste au hasard, hein, la crise du coronavirus. Alors, ce que l'ignorant ignore le plus, c'est son ignorance même, puisqu'il n'en a même pas l'idée, écrivait Paul Valéry. Pourquoi cette tendance se répand-elle ? Sommes-nous tous un peu ultra-crépidariens ? Doit-on donc garder notre opinion pour nous ? Et puis, ne pas tout maîtriser d'un sujet, signifie-t-il forcément que notre avis n'est jamais recevable ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Dans ce studio en direct, merci d'être avec nous. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour à vous.
Soyez le bienvenu. Vous êtes philosophe des sciences, vous êtes chercheur au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique, et vous êtes auteur du livre Le goût du vrai aux éditions Tract Gallimard. On a perdu le goût du vrai, ou est-ce que le vrai est travesti aujourd'hui sous de nouveaux contours?
D'abord, pour l'affirmer, il faut être sûr qu'on l'a eu un jour.
Ouais.
Et puis pour revenir à l'étymologie de ce mot que vous avez magnifiquement prononcé, l'ultra-crépidarianisme, ça vient du latin. C'est un dicton latin qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire que le cordonnier doit s'arrêter de parler au rebord de la chaussure.
Ouais.
Et ça vient d'une anecdote qui est racontée par Pline l'Ancien, donc il y a très longtemps.
Avait
un cordonnier qu'il avait emmené avec lui pour rendre visite à un grand peintre de l'époque qui s'appelait Appel. Et Appel venait d'achever un grand tableau sur lequel il y avait des personnages. Et le cordonnier a remarqué que les sandales étaient mal dessinées. Il l'a fait remarquer au peintre, qui a corrigé son tableau, pour tenir compte des remarques du spécialiste, le cordonnier. Et le cordonnier, enhardi par le fait que le peintre avait suivi ses consignes, s'est mis à critiquer les vêtements,
etc. Oui, de la peinture.
Et là, le peintre lui a dit, le cordonnier s'arrête au rebord de la chaussure.
Et vient donc de là.
Voilà, ça a donné le crépidarianisme, le fait de parler de ce qu'on ne connaît pas, et l'ultra-crépidarianisme, pardon, c'est l'inverse, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler de ce à propos de quoi on n'a pas de compétences, ce qui est une attitude tout à fait louable en démocratie.
Oui, bien sûr, parce que
quand vous allez
sinon
au café du coin avec vos amis, vous parlez de tas de choses, vous donnez votre avis sans être compétent, c'est pas grave.
Sauf que le café du coin aujourd'hui, il est répandu sur les réseaux sociaux et on a assisté, et notamment depuis la crise du coronavirus, à différents exemples que vous citez dans votre livre. Le 5 avril dernier, alors qu'aucune étude thérapeutique n'avait encore eu le temps d'aboutir, le Parisien publiait les résultats d'un sondage abracadabrantesque. Vous les aimez ces mots, vous le faites
c'était
exprès.
Pour vous.
Ça n'est pas
pour
possible.
Travailler l'addiction.
À la question, d'après vous, tel médicament est-il efficace contre le coronavirus ? Donc, le Parisien posait la question à ses lecteurs. 59% des personnes interrogées répondaient oui, 20% non. Seuls 21% des sondés déclaraient qu'ils ne savaient pas. L'immense majorité, 80%, affirmait donc savoir ce que personne ne savait encore à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous avez aussi vous décidé d'écrire ce livre qu'on le retrouve donc aux éditions Tract Gallimard. On va accueillir notre deuxième invité, il est en ligne avec nous. Jean-François Marmion, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour Étienne et bonjour Daniel. Daniel, c'est mon voisin et pendant que je promenais mon chien ce midi, il m'a dit qu'il vous écoutait tous les jours sur son tracteur.
Ah, mais écoutez, on le salue. À chaque fois qu'on vous a en ligne, vous nous parlez de la campagne et des tracteurs. Je me demandais si vous me faisiez la gueule ou pas, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a pas vu.
C'est mon univers, c'est mon environnement. Et puis pour venir, c'est ce que je dis toujours, il faut que je trouve un tracteur qui me prenne en stop, parce que moi, j'ai pas de train près de chez moi et j'avoue que je ne tiens pas à le prendre en ce moment.
Vous n'allez pas nous raconter votre vie, de toute façon, Jean-François
Marmion. Elle est passionnante pourtant.
Oui, mais j'imagine, mais ce sera pour une autre fois. Vous êtes auteur d'un livre, La psychologie de la connerie en politique, aux éditions Sciences Humaines. D'ailleurs, Étienne Klein, vous l'avez lu.
Oui, j'étais étonné qu'il fasse qu'un tome.
Voilà.
Parce que c'est le troisième de la série sur la connerie, hein, je vous rassure.
D'accord, mais sur la connerie en politique, c'est le seul tome. Et Étienne Klein, effectivement, estimait que vous auriez dû en écrire encore davantage. Ce qui me fait penser au témoignage d'Elisabeth sur Facebook, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. C'était Desproges qui disait ça.
Oui, c'est une citation dans mon bouquin, d'ailleurs.
Oui, voilà. Ah. Oui, bon, enfin, bon, elle est de Desproges. On va pas non plus. Eh ben voilà, tiens, ça lui a coupé la chic. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Sommeil levant d'ailleurs, hein, l'album de Oshi. Mais est-ce que le soleil va se lever avec le retour de Jean-François Marmion sur cette antenne ? Jean-François, ça y est, venez nous éclairer.
Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ouais.
Bah non, 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 mais pourtant, dites donc. On est ravis que vous soyez avec nous jusqu'à 15h30 en compagnie d'Étienne Klein, qui est philosophe des sciences et qui s'est intéressé à ce phénomène donc de l'ultra-crépidarianisme ou comment donner son avis que l'on croyait systématiquement le bon. Je faisais référence à une phrase de Desproges, il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui ?
C'est d'actualité aujourd'hui, mais ça l'a toujours été. Si on enlève ce beau terme d'ultra-crépidarianisme, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme ? Ça peut être la prétention, ça peut être l'outrecuidance, et ça, c'est pas notre siècle qui l'a inventé. Il y a toujours eu des gens qui parlaient à tort et à travers de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait une vie où on parlerait que des choses qu'on maîtrise ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment comme sujet ? C'est pas si facile. Peut-être qu'on maîtrise à peu près notre métier, et encore, plus on le connaît, plus on reconnaît que c'est complexe et on reconnaît nos propres limites. Donc, on ne peut pas passer notre vie entière à parler uniquement de notre métier. Il n'y a pas de vie sociale si on ne parle que de ce qu'on connaît bien et que de ce qu'on maîtrise.
Ok, mais en ce moment, quand même, on est dans une société où tout le monde sait tout sur tout.
Oui, mais vous savez, si on avait, puisqu'Étienne est historien des sciences, il pourrait, philosophe des sciences, il pourrait très bien vous parler de ce qu'on, des débats à l'époque de la découverte des vaccins justement, ou des débats autour de Pasteur.
Pasteur, ça a été difficile.
Voilà, ouais. Les débats autour de la circulation sanguine, autour de la saignée, autour de l'hystérie, etc. Que des domaines dont tout le monde parlait, y compris parmi les sommités scientifiques, et où les gens racontaient n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas encore les éléments pour bien juger. Donc évidemment qu'on parle de ce qu'on ne connaît pas, mais par définition, on parle de ce qu'on ne maîtrise pas. La vie, on ne la maîtrise pas, on ne maîtrise pas l'avenir, on ne maîtrise pas l'amour, on ne maîtrise pas le destin de nos enfants, on ne maîtrise pas, mais on en parle, et peut-être parfois c'est ce dont on parle avec le plus de plaisir.
Mais est-ce que le phénomène n'est pas plus dangereux aujourd'hui, Étienne Klein, que justement l'information et la fausse information, la mauvaise information se diffusent à la vitesse d'un clic?
Moi, je pense que le phénomène est amplifié, simplement. Il n'est pas nouveau, en effet, il est amplifié. Il a des moyens techniques, notamment, qu'il n'avait pas auparavant. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Jean-François quand il dit que cet ultra-crépidarianisme est nécessaire pour la vie sociale, pour parler avec son voisin. C'est, en fait, pratiquer une forme de politesse de l'esprit. C'est-à-dire, on parle, comme ça, on discute. C'est aussi nécessaire à la vie démocratique, parce que on ne vote pas en fonction de ses compétences. On vote par sa conscience. Quand on a voté pour ou contre le traité de Maastricht, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu ce traité, quiconque n'avait pas un doctorat de droit constitutionnel ne pouvait pas le comprendre. Et donc on a voté en méconnaissance de cause, en se basant sur son intuition, ce qu'on avait pu entendre ici ou là. Il y a simplement des domaines, notamment scientifiques, où cet ultra-crépidarianisme devient dangereux. Notamment quand on confond, et on l'a beaucoup fait pendant ces derniers mois, la science et la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances, ou les sciences, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont des bonnes réponses à des questions bien posées. Par exemple, est-ce que l'atome existe ? Bah oui, on sait maintenant que l'atome existe. Quelle est la forme de la Terre ? Bah elle est plutôt ronde que plate, etc. Et ces connaissances scientifiques, dont on n'a pas lieu de douter, sauf si un argument nouveau oblige à le faire, étant incomplet, ce corpus pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et là, on fait de la recherche. La recherche a à voir avec le doute. Et quand le doute vient coloniser la recherche ou la science, parce qu'on confond les deux, alors on en vient à dire la science c'est le doute. Mais si la science c'est le doute, alors quiconque peut dire ce qu'il en pense à partir de ses croyances, de ses a priori, de ses préjugés, de son ressenti, etc.
Alors néanmoins, on peut quand même avoir le sentiment, quand on regarde aujourd'hui, et je reviens toujours sur ces réseaux sociaux, qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui vis-à-vis de certaines autorités qui se sont fourvoyées à prendre des positions. On en parle avec Jacques, il vit en Italie, il est archetier. Oh, à chaque fois que je parle de ça, je trouve ça génial. Quel beau métier. Il a 60 ans. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous nous avez effectivement confié qu'il y a beaucoup de gens qui pensent sincèrement tout pouvoir juger alors qu'ils ne se basent que sur l'avis d'une personne qui fait autorité. Mais ce n'est pas parce qu'on fait autorité que l'on est forcément détenteur d'une connaissance avérée.
Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, surtout, c'est qu'il y a une grande défiance vis-à-vis des experts. Je ne parlerai pas du Covid parce qu'on parle trop de ça, mais dans tout domaine. Autrefois, un domaine où quelqu'un qui allait voir un expert, par exemple, qui avait un tableau, qui ne savait pas ce que c'était, il va commencer avant, on se fiait à l'avis de la personne qui avait une notoriété, qui savait, qui faisait autorité sur la place. Aujourd'hui, il va y avoir un nomadisme, on va voir là, on va aller voir sur Internet, on va prendre des avis de gens qui se disent grands connaisseurs. On met tout de suite en doute aujourd'hui, enfin pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais un peu dans le comportement quotidien, les compétences et surtout la sincérité des experts, je trouve, avec une grande arrogance de quelquefois même. On voit dans des débats des gens qui ramènent leur science, c'est le cas de le dire, sur des sujets qu'ils apparemment ne maîtrisent pas du tout face à des personnes qui sont quand même des grands comptes. Et je trouve ça un peu gênant.
Étienne Klein.
Non, moi je partage cet avis. Je pense que dans les mêmes canaux de circulation, notamment Internet, eh bien circulent des choses dont les statuts sont complètement différents. Circulent des connaissances, scientifiques ou non, des croyances, des commentaires, des opinions. Et le fait que tout cela circule dans les mêmes canaux fait que ces différentes choses se contaminent, s'amalgament.
C'est ça.
Et quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ça n'est pas la croyance d'une communauté particulière qui aurait intérêt à défendre cette croyance. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si elle ne porte pas une connaissance qu'on aurait méprisée, etc. Et je pense que pour une partie du public, ça engendre une confusion dont il est très très difficile de sortir.
Jean-François Marmion, vous allez pouvoir réagir dans un instant aux propos de Jacques. Hein, vous aviez qu'à être là pour que je vous donne la parole. À tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On parle de l'ultra-crépidarianisme. Êtes-vous tous un peu ultra-crépidariens ? Le sommes-nous tous, c'est-à-dire avoir un avis sur des choses que l'on ne connaît pas forcément. Alors, il y a quand même une différence, Jean-François Marmion, entre émettre un avis. Ça fait partie effectivement du lien social, ça a existé depuis toujours, et asséner son avis comme étant une vérité. Je trouve qu'il y a une vraie différence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi.
Je ne sais pas si c'est pire aujourd'hui, mais en tout cas, on touche au doute, la statue du doute. Douter, c'est un excellent antidote à la connerie à la base. Ça veut dire, oh là, attention, je me méfie, qu'est-ce qu'on essaie de me raconter ? Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que
Il n'y a rien de pire que la certitude, on est d'accord.
Il y a un doute méthodique qui est à la base de la démarche scientifique. Donc c'est très bien de douter. Le problème, c'est quand on transforme ce doute en nouvelle certitude. Je doute de ce qu'on me dit, donc je décide de ne pas y croire et je décide que moi, j'ai la science infuse et que j'ai la vérité. Tant pis si ça gêne, tant pis si je suis minoritaire. Et au contraire, si je suis minoritaire, ça va peut-être dire que je suis légitime, que je suis seul contre tous, que je suis un héros, etc. C'est cette espèce de perversion du doute qui passe de l'antidote de la connerie à son moteur.
Jacques, vous êtes en ligne avec nous, hein, sous l'oreille avertie aussi d'Étienne Klein, qui est notre invité dans ce studio. Jacques, vous nous avez parlé d'une crise de confiance aujourd'hui, d'une grande défiance vis-à-vis des spécialistes, de leur sincérité. Est-ce que vous pensez aussi que alors même si ça a toujours existé, pardon, mais on en parle aujourd'hui aussi comme d'un phénomène et d'une tendance, ça fait le lit d'un certain complotisme parfois?
Ah ben évidemment, de toute façon, on voit un tas de petits groupes. Les gens ont tendance à raisonner par petits groupes maintenant, par petits cercles politiques, religieux, journalistiques. Ils font une espèce de religion. Après, ils se mettent tous un petit peu derrière un leader pour aller s'affronter violemment sur Facebook comme des batailles moyenâgeuses. C'est un peu bizarre.
Étienne Klein.
Ouais, je pense
Oui, allez-y, je vous en prie, Jacques.
La chose qui est très très importante aujourd'hui, c'est que les gens ont perdu l'humilité de savoir dire je ne sais pas ou je n'ai pas d'avis sur la question.
Oui. Mmh. Étienne Klein.
Moi, une première remarque. D'abord, l'ultra-crépidarianisme, ça ne consiste pas à avoir un avis. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Ça consiste à parler avec assurance de sujets que l'on ne connaît pas, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ensuite, et pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques, il y a dans le livre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, ce qu'il dit, c'est que ce qui menace la démocratie, c'est la formation de petites sociétés. Et avec Internet, on peut choisir une sorte de chez-soi idéologique au sein duquel on sera en discussion avec des gens qui sont d'accord avec nous. On ne sera jamais soumis à de la contradiction. Et donc, on sera enfermé dans ce qu'on pense. Or, penser, c'est quand même... En premier lieu, soumettre sa propre pensée à de la contradiction pour voir si elle est capable de résister à cette contradiction. Autrement dit, la pensée suppose le débat, suppose l'argumentation. Et quand cette argumentation ne disparaît par manque de temps, le plus souvent, eh bien, on est dans la réactivité et c'est l'avis qu'on a qui prime sur le jugement.
Et aujourd'hui, ce sont nos émotions qui nous font chercher un chez-soi sur les réseaux sociaux plutôt que notre véritable réflexion.
Sans doute en partie parce qu'il y a trop d'informations. Notre cerveau n'est pas capable de les gérer toutes et il va donc choisir celles qui lui font du bien. Notre cerveau,
il a besoin de
confort psychique. Ouais. La vérité l'intéresse moyennement.
D'accord. Donc en fait, ce sont nos émotions qui nous guident plus aujourd'hui, en partie,
voilà.
D'accord.
Mais je ne veux pas faire des émotions, une sorte de bouc émissaire.
Non, j'entends, mais c'est une des analyses, en tout cas, de votre livre. On a un message de Pierre-Joseph sur Facebook. Je dirais que c'est le problème de la tentative de vulgarisation de tous les sujets trop pointus. On cherche à tout simplifier, du coup, monsieur tout le monde pense avoir tout compris et donne son avis étrange et juge. Vous soulignez il y a un instant hors antenne, Étienne Klein, qu'on est aussi dans l'information hyper rapide aujourd'hui et hyper succincte, quoi.
Oui, mais moi, j'ai fait de la vulgarisation depuis 30 ans et je pense qu'en effet, on a échoué. Moi, j'essaie de faire une vulgarisation qui soit justement pas simple, mais claire, ce qui n'est pas la même chose. Et en fait, c'est une vulgarisation qui touche le public intéressé, qui lit des livres, qui vient à des conférences. Et la crise que nous traversons m'a fait voir qu'en fait, il y a tout un public qu'on ne touche pas et qui, lui, est en effet prompt à donner son avis sans avoir du tout travaillé les questions. Mais j'observe aussi, c'est le message positif, c'est que on a vu se développer le fait que, c'est un effet qui est bien connu, qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom de deux psychologues qui l'ont étudié. Ils avaient lu dans un journal un fait divers. Un jeune homme avait cru comprendre que quand on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras. Et donc ce jeune homme s'était dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire un hold-up en mettant enduit le visage avec du jus de citron. Ce qu'il a fait, évidemment, il s'est fait prendre. Et Dunning et Kruger, ces deux psychologues, se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut être aussi incompétent? Et ils ont fait une enquête, dans plusieurs endroits, notamment des entreprises, qui a révélé que pour se rendre compte de son incompétence, il faut devenir compétent. Donc il faut travailler. Et c'est ce qu'on a tous fait. Au début du Covid, tout le monde disait, je ne suis pas médecin, mais je... Et puis à force d'entendre, d'apprendre, on a fini par comprendre que cette affaire est diablement compliquée. Et l'arrogance a un peu baissé de niveau, sauf dans les sites où elle est bienvenue, puisque ce sont des sites qui prêtent main forte à l'arrogance pour développer notamment des thèses complotistes.
Voilà, la fameuse théorie du complot. Jacques, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ces conversations passionnantes sur l'antenne d'RTL.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse,
bonne
profitez
journée.
Bien, à bientôt. Morgane est avec nous. Bonjour Morgane.
Oui, bonjour.
Ça va Morgane?
Oui, très bien.
Bon, oui, on va se retrouver juste après les informations. D'abord, je voulais vous saluer et puis deux, vous dire qu'effectivement, avec vous, on va développer cette idée qu'on doit apprendre de l'autre et que c'est un truc qu'on a complètement abandonné. En deux mots, si t'es pas d'accord, t'es débile, nous avez-vous dit. Donc effectivement, dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment de démocratie. On en reparlera avec vous dans un instant, Morgane, ok?
À tout de suite.
À tout de suite sur RTL, place à l'info.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, tout le monde a un point de vue sur tout. Enfin, tout le monde sait tout. C'est un petit peu l'idée de l'ultra-crépidarianisme. J'ai quand même réussi, Étienne Klein, toute la première demi-heure à le prononcer.
C'est brillant.
Sans la corche. Sans la corche. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Jean-François Marmion, au foot?
Oh, rien. Moi, j'ai ri par hasard, vous savez.
Alors, Morgane va nous rejoindre dans un instant. Mais Sally nous écrit sur Facebook. Je donne souvent mon avis sur des questions dont je n'ai pas forcément toutes les réponses. La fameuse science infuse. Je ne le fais pas pour dire aux autres qu'ils ont tort, mais pour participer à un débat et en ressortir plus intelligente, dans la limite de mes capacités, nous écrit-elle. Car l'intérêt d'un débat, c'est aussi d'écouter et de comprendre les arguments des autres. Et je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec moi sur ce dernier point. Enfin, tout ça, évidemment, ce n'est que mon point de vue. Smiley, clin d'œil. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Rebonjour même. Merci d'être avec nous et de témoigner sur cette antenne. Vous nous avez écoutés hein, depuis 14h30. Voilà un sujet qui, évidemment, vous interpelle. Et alors, il y a quelque chose, vous, que vous avez remarqué, c'est qu'effectivement, et je vous rejoins, parce que plus ça va, moins je l'ouvre, moi, dans les dîners, parce que aujourd'hui, apprendre de l'autre, nous dites-vous, semble être une idée abandonnée et enterrée.
Oui, j'ai l'impression que maintenant c'est un combat à celui qui va crier le plus fort pour avoir raison.
Ouais.
Et avoir raison, c'est pas de crier le plus fort en fait.
D'accord.
Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de prendre, ou alors j'ai largement diminué ma prise de position dans les débats, parce que moi je pars d'un principe où l'autre a sûrement quelque chose d'intéressant à dire et je vais pouvoir faire évoluer mon point de vue. Et j'ai remarqué que c'est très rare que les personnes en face de moi adoptent la même position.
Mmh. Alors avoir raison, parfois on n'a pas raison. C'est-à-dire que ce que vous soulignez, c'est effectivement cette idée que on assène maintenant son opinion comme une sorte de vérité, et que lorsque l'on a en face de soi quelqu'un qui n'adhère pas ou qui méconnaît, il est forcément débile. C'est comme ça. Que...
Oui, c'est ça.
Je l'ai un peu résumé, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus cette ouverture à l'autre, Étienne Klein.
Oui, enfin penser, c'est dire non à sa pensée, hein, c'est-à-dire. Penser, c'est, comme je le disais, apporter à ce qu'on pense déjà des contre-arguments qui peuvent nous obliger à revoir nos positions. Ensuite, débattre, c'est un vieux, très vieux verbe qui remonte au XIIe siècle. Débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Ça suppose d'écouter l'autre, de pas crier trop fort, de pratiquer une sorte de politesse de l'esprit pour laisser place à l'argumentation. Et à la fin, on peut dire ce sur quoi on est d'accord, et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Mais avoir des avis opposés, moi ça me dérange pas, ça fait partie justement de la vie de la pensée, de la vie de la démocratie, de la vie sociale. Mais il y a des choses qui sont des connaissances. Et les connaissances, notamment scientifiques, se sont construites sans qu'on demande l'avis aux uns et aux autres. Elles se sont construites grâce à des protocoles, des recherches, qui sont d'un autre registre que le référendum ou la sollicitation des opinions des uns et des autres. Quand Einstein a écrit E égale MC2 en 1905, on n'a pas demandé à la population de voter pour ou contre, comme on demande à la population de voter pour ou contre un traité. C'est un autre registre de vérité, et l'avis des uns et des autres sur E égale MC2 peut être aussi divers que l'on veut, ça ne change rien à la façon dont on a montré que cette formule mathématique fonctionne en physique.
D'accord, mais ça, lors d'un dîner, on n'a pas tous la maîtrise d'un scientifique, on n'a pas tous l'autorité d'un scientifique. Donc en fait, quand on ne parle pas de science, on parle de...
Oui, mais moi, ma critique, elle porte uniquement quand on parle de science. On n'a pas à demander à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Il paraît, je l'ai lu, que 17% des Français pensent que la Terre est plate. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Est-ce qu'on dit à ces Français qu'ils se trompent? Ou est-ce qu'on considère que la Terre est ronde sur 83% de sa surface et elle est plate sur 17% pour honorer le suffrage universel?
On peut l'envisager, voilà. Mais c'est vrai que ça prête à sourire. Morgane, comment est-ce que vous vous comportez avec ceux qui justement vous assènent des vérités avec tout le lot d'agressivité, en tout cas, qui, moi je trouve aujourd'hui, peut faire partie du débat?
Ça dépend beaucoup de mon humeur du moment et des prédispositions dans lesquelles je suis. Parce que je me suis rendu compte justement que ces derniers mois, surtout avec tout ce qui s'est passé, on a fait face à une vague de gens qui savent tout mieux que tout le monde et qui sont très agressifs. Et à l'origine, je suis quelqu'un qui suis très dans la discussion posée.
Ouais.
Et je suis devenue assez aigrie et agressive moi-même par un moment, plus en, pas en disant j'ai raison, mais en disant mais bon sang, juste renseignez-vous avant de parler, parce que là vous dites des trucs, on sait même pas de quoi vous parlez. Et j'ai dû prendre un pas en arrière, j'ai dû prendre du recul, parce que ça avait vraiment un impact sur mon moral général.
Oui, c'est-à-dire que ça finissait par vous atteindre. Jean-François Marmignon, vous êtes psychologue aujourd'hui, c'est passionné.
Oui, c'est passionné parce que on a l'impression que lorsqu'on n'est pas d'accord avec nous, on nous agresse personnellement.
C'est ça.
C'est-à-dire que les débats ne portent pas sur les arguments, les débats finissent par porter sur les personnes d'emblée. T'es pas d'accord avec moi, donc non seulement t'as rien compris, mais tu m'en veux. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça, c'est peut-être un héritage des fameux réseaux sociaux quand même.
Merci.
Où on n'a pas des relations humaines normales.
C'est ça.
Normalement, pour parler avec quelqu'un, on le regarde dans les yeux, on tient compte de ses intonations, on tient compte de ses gestes, on tient compte de ce qu'on décrypte dans son attitude vis-à-vis de nous. Sur un écran, c'est impossible. Et dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se stresse et on pense que peut-être ce gars-là est menaçant et je vais me défendre en attaquant le premier. Alors que dans une conversation normale, ma foi, on voit bien que le ton de la voix est plus mesuré, on voit bien qu'il n'a pas de sourire ironique. Oui. Mais à force de se comporter comme ça sur un écran, quand on passe plus de temps avec des gens sur un écran que dans la vraie vie, eh bien on finit par traiter les gens dans la vraie vie comme on les traite sur les écrans, c'est-à-dire je te coule bec, je te chasse, je te bannis, je te censure, etc.
Étienne Klein ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que la distanciation sociale que nous avons dû respecter à cause du Covid a certainement joué un rôle dans le fait que cette tendance est amplifiée.
C'est vrai.
Et de même, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence verbale. Mmh. Et d'ailleurs, on ne voit que celle qui passe, mais il y a toute la censure qui empêche certains propos d'être tenus. Et en fait, ce qui limite la violence, paradoxalement, c'est la présence physique. Vous pouvez agonir quelqu'un d'insulte devant votre écran en tapant sur votre clavier, mais dès que vous êtes en face de la personne que vous avez ainsi attaquée, en général, les propos deviennent beaucoup plus aimables.
Ça dépend, parce que
on est ensemble physiquement, il y a sans doute moins d'agressivité que celle qu'on peut lire ici ou là sur des réseaux numériques.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Morgane d'être intervenue
merci
sur cette antenne depuis les Vosges. Dans un instant, c'est Nicolas qui, va nous parler de ces voix qui sont plus modérées, celles que l'on n'entend pas toujours et ne sont ce pas celles que l'on devrait écouter davantage. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Ferry Flamand. Bon après-midi sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Hervé nous écrit sur Facebook, oui, on peut donner son avis, même si l'on ne connaît pas bien le sujet, cela permet d'avoir des conversations intéressantes. Oui, alors ça, c'est effectivement la politesse de l'esprit, comme vous le dites si bien. Étienne Klein, vous êtes philosophe des sciences et vous êtes notre invité. Vous êtes auteur d'un livre, Le goût du vrai, aux éditions Tract Gallimard, et Le psychisme ascensionnel, aux éditions Artaud. Jean-François Marmignon, il est psychologue. Il est l'auteur de La psychologie de la connerie en politique, édition Sciences humaines. Ça fait 3 tomes sur la connerie. En politique, ça fait 1 tome. Et c'est toujours très intéressant. Je vous en prie, très cher. Nicolas nous rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous, Nicolas. Vous savez, dernièrement, on a fait une émission en se demandant si on n'avait pas plus de si les voix que l'on n'entend pas assez étaient celles qu'on devait écouter davantage. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, notre titre d'émission était bien mieux formulé que ceci. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut aboyer, qu'il faut parler à l'impératif, qu'il faut parler plus fort que les autres pour se faire entendre. Or, bien souvent, la modération de la voix induit forcément une nuance. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas d'opinion.
Tout à fait.
Voilà.
Non mais c'est ce qui crie le plus fort qu'on entend le moins.
Ouais.
Donc à partir de là, c'est je fais en sorte de crier le moins fort.
Mais alors, est-ce que l'on vous écoute pour autant ?
J'attends qu'on vienne chercher mon avis justement.
Ah.
Et c'est le fait d'avoir un retrait qui fait que on va solliciter mon avis.
Ok.
Donc je joue la discrétion et c'est ce qui fait que mon avis prend de l'intérêt en fait.
Donc vous ne donnez pas votre avis à tort et à travers. Vous donnez votre avis quand on vous le demande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une conversation, je dirais, Étienne
Klein.
Exactement,
on converse, voilà. On échange.
On converse, on échange.
On écoute.
Jean-François Marmion, on est bien d'accord. Voilà, c'est...
Oui, oui, mais c'est une stratégie qui est parfois employée par les profs en classe. Hein, vous savez, quand il y a du brouhaha, ils se mettent à parler de plus en plus bas. Comme ça, les gens sont obligés de tendre l'oreille, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que ça marche à tous les coups non plus. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle en psychologie le biais de négativité ou le biais de négativisme. Ça, lorsque vous entrez dans une salle et qu'il y a 100 personnes, il y en a 99 qui sont calmes, normales, civilisées. Il y en a une qui se met à hurler ou à menacer. En rentrant chez vous, vous allez parler de celle-là. Et vous allez dire, mais les gens sont de plus en plus inciviles, tout ça. Vous n'allez pas rentrer chez vous en disant, dis donc, il y avait 99 personnes, c'était cool. C'est normal. Ce qui mobilise le plus notre vigilance, nos émotions, notre stress, c'est ce qui capte notre attention en toutes circonstances. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou dans la rue, on retient en priorité ce qui est potentiellement menaçant pour nous.
Étienne Klein ?
Oui, il y a le timbre de la voix, il y a la puissance de la voix, il y a aussi la radicalité des positions. Quand on a une position radicale, on détermine plus l'évolution du débat que quelqu'un qui a une position modérée. Et il y a une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Prenez tous les débats en France sur les technologies, la 5G, le nucléaire, les OGM. Ben les gens qui sont militants, pour ou contre, c'est pas la question de savoir si on est favorable ou défavorable à telle ou telle technologie. Mais les gens qui sont les plus engagés ne sont pas les plus compétents. On peut être pour la 5G ou contre la 5G, sans être le moins du monde capable de dire ce qu'est la 5G. Et il me semble que les gens modérés ou les gens compétents devraient davantage s'engager, même s'engager sans modération, pour que les débats aient vraiment lieu. Sinon, les discussions sont tellement polarisées qu'en fait, il n'y a pas de débat.
Mais comment se faire entendre dans ce cas-là? Si on doit le faire sans modération, comment trouver dans la société d'aujourd'hui, qui est une société de gueulards, comment trouver sa place quand on a une voix
Je pense qu'il faut inventer quelque modérée. Chose, une forme, alors j'aime pas le mot, mais j'en ai pas d'autre, d'ingénierie sociale, par laquelle on organiserait de véritables débats, laissant la part à ce qui relève de l'expertise, parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien dire de quoi on parle.
On est d'accord.
Ensuite, la discussion démocratique, parce qu'en France, comme dans tous les pays démocratiques, on a le droit de discuter ensemble du type de compagnonnage que nous voulons faire avec les nouvelles technologies. Et ensuite, la part qui revient à la décision politique. Et il faut mettre ça sur pied, de sorte qu'à la fin, quand des avis sont rendus, on les reconnaisse comme valides, même si on n'est pas d'accord avec eux, au motif qu'ils ont respecté la procédure sur laquelle on s'était mis d'accord.
Nicolas, est-ce qu'il vous arrive aussi de dire « je n'ai pas d'avis sur la question »
Assez souvent. Parce que justement, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc si c'est un sujet que je ne maîtrise pas, et ben ça incite à la conversation et puis on se fait un avis au fur et à mesure. Donc c'est un avis évolutif parce que on peut qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, voilà, et la vie va se forger ou s'influencer dans selon les cas, mais. Au contraire, moi je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je sais que j'ai pas d'avis sur beaucoup de sujets.
Après, pour moi c'est une remarque capitale qui vient d'être dite là, parce qu'avoir un avis, c'est pas du tout la même chose que se forger un avis. Se forger un avis, c'est un travail de forgeron. C'est un travail. Ouais. Avoir un avis, c'est tellement facile que ça dédouane de l'obligation de s'instruire.
Nicolas. Le temps file, mais je voudrais vous remercier. Et on est dans une société où on le disait en fait, plus on aboie, plus on dit des choses, plus on a le sentiment d'être narcissisé. Donc d'être capable de dire « je n'ai pas d'avis », c'est une grande humilité, une vraie sagesse. Merci beaucoup Nicolas, je vous embrasse.
Merci,
voilà.
Bonne journée, au revoir.
Merci, dans un instant, Emmanuel sur cette antenne.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30,
Flavie Flamand sur RTL.
Jean-François Marmion, vous êtes toujours là ?
Toujours, bien sûr.
Et dire je ne sais pas, moi je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui. Et en même temps, aujourd'hui, ne pas savoir, on va nous le reprocher. On estime, je pense aux politiques notamment, on veut absolument qu'ils aient une réponse à nos questions. Or, il est des choses que l'on ignore, même dans la situation actuelle.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est à chacun de nous de s'interroger sur ce qu'on doit faire de notre attention et de notre temps. Est-ce que si j'ai une heure devant moi, je vais aller regarder les dernières vidéos des extrémistes qui ont toujours un truc polarisant à dire, qui nous énervent, qui nous font rire, est-ce que je vais faire ça parce que bah ça détend, je réfléchis pas, ou est-ce que je vais mettre à profit cette heure pour aller voir des arguments plus développés, plus nuancés, peut-être plus tièdes de l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps? Est-ce que vraiment j'ai envie de me laisser vampiriser par des gens qui n'ont rien à dire mais qui disent fort?
Oui, mais pour reposer ma question, on est bien d'accord qu'aujourd'hui on est dans une société où on nous demande de tout savoir. Ou en tout cas d'avoir un point de vue sur tout.
C'est toujours la même question. Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est devenu comme ça? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui ça se voit davantage parce que tout se voit davantage. Tout se remarque davantage. Il faut vraiment le faire exprès pour ne pas se faire remarquer aujourd'hui. Il faut vraiment être anonyme à tout prix, n'être nulle part. Mais sinon... Tout se sait. En plus, sur les réseaux sociaux, bah, vous dites un truc, tout le monde le sait, tout le monde sait ce que vous pensez, tout le monde réagit. Mais autant, vous ne pensez pas forcément plus de conneries qu'avant. Simplement, ça se sait.
Oui, enfin bon. Emmanuel, parce qu'il nous reste peu de temps. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Camille.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous vivez à Strasbourg. Vous avez établi une règle, vous?
Ah, ouais. Ça remonte en fait. Enfin voilà, moi je suis déjà quelqu'un d'atypique. Je suis un zèbre.
Ouais.
Donc déjà ça aide pas. Parce que au niveau communication, quand on a les gens, enfin je suis un peu sans filtre. C'est-à-dire je dis les choses comme ça cache et ça passe pas toujours. Ça c'est clair. Hein. Et en fait on peut pas discuter de tout avec tout le monde. Ça c'est évident. Et je dis toujours qu'il y a 5 ou 6 sujets de société qu'on ne peut pas aborder en public.
Lesquels?
Parce que vous êtes sûr que en face les gens vont se braquer. Enfin, vous pouvez pas en parler librement en tous les cas. Les gens vont se braquer. Ils vont venir aussi avec leur avis, mais c'est très carré, c'est très non ton truc là, c'est pas possible. Bah, c'est simple, hein. Vous en avez parlé, c'est la politique, la sexualité, l'argent, l'éducation des enfants et des animaux.
C'est pas con.
Attends. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Il y a des gens qui acceptent que leur chat accepte de venir manger à table, sur la table, ou qui passe sur la table. Il y en a d'autres, c'est inconcevable. Après, ça dépend comment on visualise le truc.
D'accord.
Mais voilà.
D'accord. Donc là, il est des sujets que vous n'abordez pas, parce que vous savez que de toute façon, ça va partir.
Ça va partir au clash. Et puis moi, je dis clairement les choses. J'appelle un chat, je tergiverse pas. Et en face, ça bloque, quoi.
Vous ne parlez que de ce que vous maîtrisez?
Ouais, de manière générale, oui.
D'accord.
Parce que, alors c'est simple, quand il y a un sujet que je ne comprends pas, la plupart des gens maintenant me connaissent, je dis, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et parce que, ou je ne maîtrise pas assez, c'est ce que je dis. En général, il vaut mieux avoir une bonne argumentation sur un sujet, qu'on le maîtrise au moins un temps soit peu, plutôt que de passer pour un ignare ou quelqu'un de stupide, à moins d'avoir en face une personne qui est à peu près dans le même profil. Mais de dire un truc juste pour faire genre, ce n'est pas nécessaire. À mon avis, on peut avoir un avis, mais il faut quand même se dire, il faut une argumentation et être en capacité d'écouter la contre-argumentation. Se dire, oui, effectivement, là, je me trompe. Peut-être qu'il y a des choses à chercher, à creuser. Et voilà.
Bon, c'est ce qui s'appelle la conversation.
Normalement.
Voilà.
Hein, mais en général, ce n'est pas évident. Parfois, vous avez des personnes qui font des énormes faux, des énormes qui sortent une énormité, et vous les remettez juste un peu sur le truc. C'est, ah non, ce n'est pas vrai, la guillotine tombe.
Étienne Klein.
Oui, alors moi je suis nuancé pour le coup.
Ouais.
Je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui relève du jugement et ce qui relève de la connaissance.
Ouais.
L'éducation des chats, par exemple, j'imagine qu'on peut avoir des avis différents sans que ce soit la science qui tranche la question. Je ne crois pas que les scientifiques se soient posé la question de l'éducation des chats. Et puis il y a des choses qui sont des résultats scientifiques difficiles à contester, la Terre est ronde, etc. Et là, les avis, on s'en fiche un peu.
Jean-François Marmion, le mot de la fin, je vous le donne, vous avez carte blanche. Allez, hop.
Oh, ben écoutez, j'étais en train de me dire qu'il y a quelques décennies, la conversation, c'était quand même pas mieux qu'aujourd'hui. Souvent, les enfants, les ados et parfois les femmes n'avaient pas le droit de parler à table. Parce que c'était les hommes qui confisquaient le savoir, les connaissances, qui délivraient leur vision du monde. Et il fallait pas parler de politique, il fallait pas parler de religion, il fallait surtout pas parler de sexualité, il fallait pas parler de musique même.
Bon, alors,
donc aujourd'hui, c'est d'autres façons de s'engueuler, mais c'est pas nouveau, sur le fond.
Bon, vous voulez rajouter un truc, Étienne Klein, ou pas?
Bah là, je suis le seul homme sur le plateau, donc
ouais, c'est vrai.
En effet, ça a changé. Hein.
Ouais, vous voyez. Oh, ça va, c'était pas si douloureux que ça.
Ça a été très bien.
C'était passionnant.
C'est le bon équilibre.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Étienne Klein. Le goût du vrai, c'est aux éditions Tract Gallimard. Psychisme ascensionnel, c'est chez Artaud. Jean-François Marmion, je vous bise. À la prochaine,
tiens,
en 2025, hein, on sait jamais. Voilà, le temps de venir en tracteur. Psychologie de la connerie en politique aux éditions Sciences Humaines.
Ou alors venez faire votre émission chez moi.
Ouais, écoutez, on en reparlera. Hein, parce que si on vient en tracteur, on n'est pas rendu non plus. Hein. Et puis on est nombreux, nous. Emmanuel, merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne. Prenez bien
merci
soin
à
de vous.
Vous.
À très bientôt.
Oui. À bientôt.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.
RTL, on est fait pour s'entendre.